enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai jamais plus pareil, mais je serai transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, j'ai hâte de continuer la série qu'on a commencée la semaine passée sur la question « Dieu, qui es-tu? » Et puis, c'est vraiment une bonne question, parce que si on n'a pas la réponse à cette question, on est fait dans la vie. Vous êtes d'accord? C'est vraiment la question le plus important que tout le monde a besoin d'être en mesure de répondre. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? C'est qu'il y a toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées sur Dieu et qui est Dieu, etc. Des gens, on a vu, exemple, les paroles du chant de Boum Desjardins, par exemple, la semaine passée. On voit le cœur de cet homme qui crie pour avoir une réponse. Dieu, est-ce que tu peux juste m'écouter un peu, etc. Donc, il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui croient en lui, il y a d'autres qui ne croient pas en lui, mais il y a même des chrétiens des fois, les gens qui sont dans le Seigneur depuis des années, ils ont des questions, ils se posent des questions. Et c'est quelque chose qui est dans mon cœur depuis quelques semaines, que nous avons besoin de prendre du temps ensemble dimanche matin, pour les prochaines quelques semaines, et vraiment chercher la face de Dieu. Pas juste chercher sa main, mais chercher à connaître Dieu. De le connaître d'une façon intime, pas juste intellectuellement, mais de le connaître pour vrai. Et puis, notre verset clé, si vous voulez lire avec moi, Jean chapitre 17, verset 3, si on peut le regarder. Jésus a dit ceci, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Tout le monde dit le seul vrai Dieu. Vois-tu, il y a juste un seul vrai Dieu. Comme on va voir, il y a beaucoup de dieux dans le monde qui ont été créés ou imaginés. Mais il y a juste un seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la question qu'on veut se poser ce matin, c'est... Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu? Parce que savez-vous quoi? Dans la Bible, les noms sont importants. Aujourd'hui, on va appeler les bébés comme on veut. On va juste donner les noms parce qu'on aime la façon que ça sonne dans l'oreille. Donc, c'est un joli nom. Mais dans le temps de la Bible, les gens ont été nommés, même dans, c'est pas juste dans le temps de la Bible, mais pendant des siècles, des personnes ont porté un nom qui représentait leur caractère ou qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, n'est-ce pas? Monsieur Boulanger, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Ouais, c'est ça. Monsieur Charpentier, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? On savait à l'époque que ça voulait dire quelque chose. Et savez-vous quoi? Que c'est la même chose quand on parle de Dieu. Dieu n'est pas une force impersonnelle. Dieu n'est pas une chose, mais Dieu est une personne. Dieu est un esprit, mais il est une personne. Il y a un seul vrai Dieu et il a un nom. En fait, il a plusieurs noms. Comme il y a des gens ici qui peuvent avoir plusieurs noms. C'est un peu moins commun aujourd'hui, mais dans le temps, hein, tout le monde au Québec était appelé, s'appelait Joseph, n'est-ce pas? Tout le monde était Joseph et Marie, mais c'était Joseph, Antoine, Claude, ou on avait 5-6 noms. Mais souvent, c'est le cas dans certaines sociétés, certaines cultures. Et qu'est-ce qu'on va voir dans la Bible? C'est que Dieu s'est donné les noms. Certains de ces noms sont plus comme les titres qui décrit un peu sa fonction, qu'est-ce qu'il fait. Et il y a d'autres noms qui vont décrire sa nature, son caractère, et qu'est-ce qu'il veut faire dans votre vie. On va voir qu'il est un Dieu qui s'intéresse à nous. C'est pas un Dieu qui est loin, c'est pas un Dieu qui se cache, comme les paroles de Boum Desjardins ont dit. Il se cache pas. Il veut se révéler, il veut qu'on le voit. Le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas son nom. Il y a un verset dans le psaume 91. On peut voir cela ce matin. Psaume 91, verset 14 dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon quoi? » Puisqu'il connaît mon nom. Cela veut dire que si quelqu'un ne connaît pas le nom de Dieu, il n'est pas forcément sous la protection de Dieu. Il faut connaître Dieu afin de jouir des bienfaits et d'être délivré par lui ou protégé par lui. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu ne veut pas protéger tout le monde, mais on va voir dans les semaines à venir que Dieu est tout puissant, mais il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il a choisi de nous donner le pouvoir de choisir notre propre destinée. Et donc, on va voir cela plus tard. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu va délivrer et il va protéger ceux qui connaissent son nom. C'est pourquoi il est important de connaître le nom de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la protection de Dieu. Surtout aujourd'hui, on vit dans un monde dangereux. Vous êtes d'accord? Et moi, je suis content que je peux prier pour mes enfants et les envoyer à l'école en sachant qu'ils vont être sous la protection de Dieu. Je suis content de savoir que moi aussi, je peux me promener et je peux être sous la protection de Dieu. Parce que je connais le nom de Dieu. Amen. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Est-ce que quelqu'un ici qui aimerait vivre longtemps sur la terre et jouir du salut de Dieu? Savez-vous que tout cela est lié à la connaissance du nom de Dieu? Si on ne connaît pas le nom de Dieu, ça se peut qu'on ne va pas jouir d'une longue vie. Si on ne connaît pas, et je ne dis pas juste connaître le nom juste ici dans la tête, mais on connaît le nom et la nature de Dieu dans notre cœur, comme on a chanté, « Je suis ami de Dieu ». Et si on est ami avec Dieu, Dieu encore, ce n'est pas une force, Dieu est une personne qui nous aime. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Et ils sont vraiment confus. Il y a des personnes qui sont, ils disent être, qu'ils sont athées, ils ne croient pas en Dieu. Et il y a des personnes qui disent qu'ils sont agnostiques, c'est-à-dire que bon, peut-être Dieu existe, mais on peut pas le connaître. Il y a tellement de religions. En fait, j'ai lu quelque chose par un auteur inconnu cette semaine, et je pense qu'on l'a ici sur l'écran. Il a dit ceci, « Les idées que les hommes se font sur les dieux sont aussi variées que leur imagination le leur permet. » Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Bon, si tu peux l'imaginer, tu peux créer presque un dieu à ton image, selon tes idées. Mais derrière cette multiplication de dieux, il y a cette question universelle et bien réelle, « Qui est Dieu? » Il faut qu'on sache. Il faut savoir c'est qui le seul vrai Dieu et c'est quoi son nom. Et malheureusement, notre société est remplie des personnes qui sont dans les ténèbres. Et même souvent, les personnes que nous allons considérer comme des leaders ou des personnes qui ont de l'influence ou souvent les personnes qui sont considérées comme célèbres, les gens qui dirigent la société souvent sont vraiment, vraiment dans les ténèbres. Comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est qui cet homme-là? Est-ce que quelqu'un le reconnaît? Ça, c'est Woody Allen. Woody Allen a fait beaucoup de films et c'est quelqu'un qui est assez célèbre dans le monde entier. Mais regarde qu'est-ce que Woody Allen a dit. Il a dit, Dieu est mort, Max est mort et moi-même, je ne me sens pas très bien. Un peu drôle, mais c'est, dans le fond, c'est pas si drôle que ça. C'est sérieux, ça peut expliquer peut-être un peu les films bizarres des fois, n'est-ce pas? Donc, mais ça, c'est les gens qu'on voit que, oh, ça, c'est une personne célèbre. Il y a des philosophes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu cet homme ici? Probablement pas. Si quelqu'un peut nommer cette personne-là, je vais vous donner un prix, je ne sais pas quoi, mais peut-être vous avez entendu parler de lui. Mais regarde qu'est-ce qu'il a dit. Il est fameux pour qu'est-ce qu'il dit là. Dieu est mort, Dieu reste mort. C'est nous qui l'avons tué. Ça, c'est Friedrich Nietzsche, OK? Qui était un gars qui habitait en Allemagne. Et c'est devenu fameux. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup? J'ai entendu qu'il existe maintenant les T-shirts, OK? Et c'est marqué sur sur le front du T-shirt, c'est marqué « Dieu est mort, signé Nietzsche », OK? Sauf qu'au dos du T-shirt, c'est marqué « Nietzsche est mort, signé Dieu. Parce que regarde, lui, il est décédé en 1900. OK? Et je peux vous assurer que lui, il est vraiment mort, il est encore mort. Donc lui, il a dit, oh, Dieu est mort, c'est nous qui l'avons tué, mais écoute, ça c'est ridicule. Donc là, on a tous ces groupes de personnes qui croient pas à Dieu ou qui essaient de se convaincre que Dieu n'existe pas. Mais comme on a dit la semaine passée, c'est l'insensé qui dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Moi, je crois pas vraiment aux vrais athées. Quelque chose dans leur esprit dit Dieu existe. Dieu a placé l'éternité dans le cœur de chacun. Et puis, qu'est-ce qui est encore plus dangereux, je crois, que la personne qui dit que Dieu n'existe pas, c'est la personne qui croit que Dieu existe et qui croit même en Jésus, mais leur perception de Dieu est tordue. Ça, c'est encore plus dangereux. Les personnes qui disent, oh oui, je suis chrétien, mais le Jésus qu'ils vont décrire, c'est pas du tout le Jésus que je connais ou que la Bible nous montre. Hein, les gens, oh, mais moi, je crois en Dieu, mais le Dieu qui parle à eux, c'est pas le même Dieu que nous voyons parler dans les Écritures. Vous êtes d'accord? Et là, on a ri un peu, mais, et j'ai presque hésité à mettre cela, mais est-ce qu'il y a des gens qui savent la prochaine personne ici? Tout le monde sait qui, hein? Lui, il avait une croyance en Dieu. En fait, regarde qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, grâce à vous, je meurs comme Jésus-Christ pour inspirer des générations de personnes faibles et sans défense. Là, on voit quelque chose qui est encore plus sérieux. Quelqu'un qui est capable de tuer en pensant qu'il le fait comme pour la gloire de Jésus, à la style de Jésus. Laisse-moi vous dire que le Jésus dont il parle n'est pas du tout le même Jésus que nous voyons dans les Écritures. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus peuvent entendre quelque chose comme ça et ils peuvent dire, mais si ça c'est Jésus, je veux rien savoir de lui. Donc, je pensais que c'était important de le mentionner ce matin. Au cas où, il y a des gens qui vont dire, mais tu vois, encore une autre preuve que la religion, c'est malsaine, c'est dangereux, la croyance en Dieu. On devrait juste mettre toutes ces croyances dans la poubelle et... Mais non, c'est pas ça. C'est pas le remède. Le remède du problème, c'est pas de mettre Dieu et les croyances en Dieu dans la poubelle parce qu'on ne peut pas. Dieu existe pour vrai. Amen. Jésus-Christ est vivant, mais le Jésus que nous voyons révélé dans la Bible, c'est pas du tout un Jésus qui va inspirer quelqu'un à tuer 32 personnes et puis de se suicider. Ça se fait pas. Amen. Donc, on a besoin de voir, si on peut voir la prochaine chose, c'est que la Bible dit en Romains 2, 24, car le nom de Dieu est à cause de vos blasphémés parmi les païens. Et c'est ça qui arrive souvent. Les gens parlent de Dieu, ils parlent de Jésus. Même les nazis, il y a des personnes qui disaient des fois qu'ils faisaient des choses pour Dieu. On sait que le 11 septembre 2001, quand les terroristes ont fait en sorte que les avions se sont écrasés dans les deux tours, au moment de l'impact, il disait, il chantait, hein, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais le Dieu dont il parlait, c'est pas du tout le Dieu, le seul vrai Dieu. Amen. Je m'excuse, et il y a des gens qui vont dire, mais comment est-ce que tu peux dire cela? Parce que moi, je sais qu'est-ce que la Bible dit à propos de Dieu. Je sais qu'est-ce que Dieu a dit à propos de lui-même. Et Dieu est un Dieu d'amour, et Dieu est un Dieu qui est bon. Et laisse-moi vous dire que c'est pas du tout le Dieu, seul vrai Dieu qui va inspirer les terroristes à faire cela. Vous êtes d'accord avec ça, avec moi? Donc, regardons. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, voyez-vous, c'est important pour nous de connaître le vrai nom de Dieu. Parce que si on connaît le vrai nom de Dieu, on va connaître la vraie nature de Dieu. Et on ne va pas tordre la vérité. On ne va pas faire un pub qui est fausse pour le Seigneur. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui me touche et ça devrait vous toucher aussi. Quand j'entends les personnes dire les choses au nom de Jésus, que je sais c'est de la folie, ou c'est plus que la folie, souvent c'est de l'enfer. Littéralement, ça, c'est inspiré. C'est des choses diaboliques. Laisse-moi dire qu'on a besoin de se lever et de proclamer le vrai nom de Dieu. Vraie nature de Dieu pour que les gens puissent connaître la vérité et la vérité va les affranchir. Amen. La vérité va pas les tuer et la vérité va les affranchir. Donc, si vous voulez, juste pour les prochaines minutes qui nous restent, on veut voir plusieurs versets de la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament. Et dans ces versets, nous allons voir quelques mots hébreu, parce que vous savez que la Bible est écrite, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais Dieu, quand il s'est révélé, ou quand il parle de lui-même, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a certains noms qui sont attribués à sa personne. Et dans ces noms, on peut voir des choses que Dieu est et les choses que Dieu fait. Et ce matin, on va commencer. Encore, je bâtis une fondation ce matin. Et dans les semaines à venir, on va voir des choses encore plus en détail de qu'est-ce que Dieu, le seul vrai Dieu, veut faire dans votre vie. Il veut prendre soin de vous parce qu'il vous aime. Donc, la première chose qu'on voit en Genèse, le premier nom de Dieu que nous voyons dans la Bible, c'est en Genèse, chapitre 1. On connaît tous le verset. Verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le mot Dieu, là, c'est le mot Elohim. Et c'est intéressant parce que le mot Elohim, dans le fond, c'est le mot pour Dieu dans le pluriel. OK? Et qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans? C'est qu'on voit que Dieu est celui qui a créé le monde. On voit que Elohim, c'est Dieu le créateur. Il est le puissant, en fait, créateur. Donc, et au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Donc, nous avons besoin de connaître Dieu qui est le Créateur. Mais je trouve que c'est bien intéressant, parce que comme on voit dans un autre verset, en Genèse chapitre 1, verset 6, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? Dieu dit, faisons l'homme dans notre image. N'est-ce pas intéressant que le mot Elohim, c'est Dieu dans le pluriel, OK, et qui dit, faisons l'homme dans notre image. Ça peut porter une certaine confusion si nous ne connaissons pas toute la Bible. Parce que la Bible est claire qu'il y a un seul Dieu. Mais le seul vrai Dieu se manifeste dans trois personnes. Dans le sens que moi, je suis créé à l'image de Dieu, je suis juste une personne. Mais je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Il y a trois parties de ma personne, n'est-ce pas? Dieu, c'est la même chose. Il y a trois parties et on sait tous, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen? Donc déjà, dès le début, on voit la Trinité de Dieu. On voit qu'il y a un Dieu, mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on voit même dans la Bible partout que Dieu, quand il a créé la terre, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui travaillaient tous ensemble. Amen? Et c'est important de connaître que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est un, mais à la fois, c'est trois personnes qui se manifestent. Amen? Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Et pendant tout le message aujourd'hui, on va parler de Dieu que nous voyons révélé dans l'Ancien Testament. Et puis, je vais vous donner un verset du Nouveau Testament qui parle de Jésus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous savons? Et voici quelque chose de bien important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu? Quelqu'un fait le commentaire genre, tu sais, Dieu me semble a changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu cela? Le Dieu que nous voyons dans l'Ancien Testament, il a une telle nature, mais le Dieu que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est un autre. Ça, c'est pas vrai. Ce que nous allons voir, c'est que le nom de Dieu, en réalité, on va voir tous ces noms que Dieu s'est donnés, mais tous ces noms se résument dans un seul nom, le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que toute la divinité, toute le caractère de Dieu est maintenant sur forme corporelle, toutes les qualités de Dieu se retrouvent en Jésus-Christ. On sait qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Dieu le Fils est devenu un homme. Donc on voit, Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Amen. Donc Dieu n'a pas changé, il ne changera jamais. Et quand on voit Dieu dans l'Ancien Testament, on voit le même Dieu dans le Nouveau Testament. Et quand on voit Jésus, on voit Dieu, le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Parce que, regardons qu'est-ce que la Bible dit ici, dans vos notes, à propos de Jésus. « Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça parle de Jésus. Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on sait que Elohim a créé. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais là, on voit que Jésus a créé toutes choses, par lui et pour lui. Donc, on sait que Jésus et Elohim, ils font un, n'est-ce pas? Et c'est bien important qu'on comprenne cela, parce que Jésus est le Créateur. Et pourquoi est-ce qu'il est important de connaître le Créateur? Parce que si on connaît le Créateur, nous allons connaître notre raison d'être. Nous allons savoir pourquoi Dieu nous a créés. Il a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Tu trouves quelque chose, comment est-ce qu'on appelle ça? Un bon Québécois, un bébel? Et puis, tu sais pas c'est quoi? Il y a des fils, il y a des morceaux, il y a toutes sortes de choses et tu ne sais pas c'est quoi. Mais si tu rencontres la personne qui l'a créé, tu peux demander c'est quoi cette patente-là? Qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi est-ce que tu l'as fait? Ah, mais ça c'est une affaire que j'ai fait pour faire telle chose. Là, on comprend la raison d'être. Et c'est la même chose pour nous. Si on connaît Dieu le Créateur, on connaît son plan pour notre vie. Nous sommes son ouvrage et créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. Amen. Un autre nom que nous voyons qui est donné à Dieu dans l'Ancien Testament, c'est El Elyon. El Elyon. On voit cela souvent dans l'Ancien Testament. Et cela veut dire qu'il est le Très-Haut. Tout le monde dit, il est le Très-Haut. Alléluia. Et on voit cela la première fois en Genèse chapitre 14. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu Très-Haut. El Elyon. Le mot « El » veut dire « Dieu » et « Elion » encore, c'est de très haut. « El Elion », il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. » Donc, on voit que Dieu, il est Elohim, mais au même temps, il est « El Elion ». Il est le très haut. Et ça, c'est important. Il faut connaître le Très-Haut, il faut respecter le Très-Haut, parce que lui, il est plus haut que tout, n'est-ce pas? En fait, le péché de Satan, vous savez, c'est quoi? En Ésaïe 14, on n'a pas le verset pour vous sur l'écran, mais en Ésaïe 14, Satan, quand il a péché, Lucifer, quand il a péché contre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, « Je vais monter. » Je vais être comme le Très-Haut. Je vais prendre mon trône et je vais l'élever au-dessus du trône de Dieu. Je serai comme le Très-Haut. Et laisse-moi vous dire, c'est dangereux de vouloir être plus haut que le Très-Haut. Vous êtes d'accord? Donc, on voit que quand on parle de Dieu, Dieu, oui, je suis ami de Dieu, mais Dieu est le Créateur. Je suis créé par lui et pour lui. Et Dieu est très haut. Il a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées, parce que mes voix sont au-dessus de vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. La pensée de l'homme dit que, bon, si tu veux avoir plus, il faut garder tout pour soi-même. Tandis que la pensée de Dieu, qui est plus haut, dit, si tu veux plus, il faut donner plus. Hein? La pensée de l'homme dit, si tu veux être vraiment quelqu'un d'important, il faut écraser les autres et monter sur l'échelle du succès en écrasant, en marchant sur la tête de tous ceux qui sont votre compétition. Mais non, selon Dieu, la pensée du Très-Haut, c'est, soyez le serviteur de tous et vous allez devenir le plus grand. Vous voyez, Dieu est le Dieu très haut. Il faut le connaître, il faut le respecter. Regardons, il y a un autre verset qui est intéressant concernant le très haut. Il dit ici, Psaume 97 et verset 9, « Car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Amen. N'est-ce pas bon que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux? Et puis, il continue, Deutéronome 26, voici quelque chose de bien intéressant. « Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité. » Soulignez la phrase « supériorité », le mot « supériorité ». Parce que le mot « supériorité », c'est « Elion » encore. Et qu'est-ce qu'on voit? « Afin que... il a créé la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. » Qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand nous servons le Très-Haut, qui est supérieur à n'importe qui, à n'importe quoi, est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est supérieur à n'importe qui, n'importe quoi. Quand nous servons et nous honorons, nous respectons le Très-Haut, El Elyon, quand nous vivons pour lui, il nous donne une vie supérieure. Et on ne vit pas comme tous les autres. Nous avons plus de joie, notre joie est supérieure. Nos mariages sont supérieurs. Je pense que les chrétiens devraient avoir les meilleurs mariages. Amen. Tout est meilleur. Nos carrières sont meilleures. Tout est meilleur parce que nous mangeons les meilleurs produits du pays. Amen. Nos finances devraient être meilleures. Tout doit être meilleur, supérieur. Ça, c'est un principe biblique. Mais la seule façon d'avoir cette vie supérieure, c'est de servir celui qui est supérieur, El Elyon. Gloire à Dieu. J'aime ça. Est-ce que vous aimez ça? Wouh! C'est le fun. Mais quand on parle de El Elyon, on voit que El Elyon s'est fait chair aussi. Et c'est Jésus. On voit cela, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc on voit que Jésus-Christ maintenant, c'est Dieu qui s'est fait chair, et maintenant Jésus a pris la place le plus élevée, il est sur le trône de l'univers. Mais la question, est-ce qu'il est sur le trône de votre cœur? Est-ce que El Elyon est sur le trône de votre cœur? Est-ce qu'il est la chose ou la personne le plus élevée, le plus important dans vos pensées, dans vos actions? Bonne question, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi l'autre nom de Dieu que nous voyons? On voit El Olam aussi. El Olam. Tout le monde dit El Olam. Et ça veut dire le Dieu de l'éternité. Le Dieu de l'éternité. N'est-ce pas bon que Elohim, El Elyon, il est le Très-Haut pour l'éternité, pas juste pour quelques jours, pas juste quelques mois. Dieu ne va pas tomber malade la semaine prochaine. Et malgré qu'est-ce que Nietzsche a dit, personne ne va le tuer. Amen? Même si Woody Allen ne se sent pas bien, Dieu se sent très bien, il est en pleine forme. Il ne risque pas d'avoir une crise cardiaque, il ne risque pas de tomber de son trône. Non, il est le Très-Haut, mais il est le Très-Haut pour l'éternité. Et ça devrait nous donner une certaine assurance, n'est-ce pas? Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel Dieu, c'est-à-dire El de l'éternité, Olam. El Olam. Tout le monde dit El Olam. Psaume 100, verset 5, dit, car l'Éternel est bon. Je vais le dire encore. Regardez-moi droit dans les yeux. L'Éternel est bon. L'Éternel ne va pas demander à un jeune homme de se suicider et de tuer 32 personnes avant de se suicider. Pour aucune raison. Ça, c'est pas mon Dieu, c'est pas mon Seigneur, vous êtes d'accord? Mon Dieu, il est El Olam, c'est le Dieu de l'éternité qui ne changera jamais. L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Et encore, le mot toujours, c'est le mot Olam. Et sa fidélité de génération en génération. Moi, j'aime ça. On voit que, avec El Olam, on voit que c'est le Dieu qui est bon pour éternité. Il est fidèle pour éternité. Ses promesses sont oui et amen pour éternité. C'est vraiment encourageant, n'est-ce pas? Et quand on voit Jésus, c'est El Olam dans la chair. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quand Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père, il aurait pu dire, si tu m'as vu, tu as vu El Olam. Amen? Si tu m'as vu, tu as vu El Olam. Parce qu'il est à moi. Alléluia! C'est bon ça, n'est-ce pas? Puis, le prochain nom que nous voyons, c'est El Shaddai. Ah, j'aime ça. El Shaddai. Est-ce que quelqu'un connaît le chant? El Shaddai, El Shaddai. Bon, j'ose pas chanter. Mais dans les années 80, c'était un de mes chants préférés. J'aimais ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté ça dans les années 80? C'était très populaire. El Shaddai. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire le tout puissant. El, Dieu, Shaddai, le Tout-Puissant. El Shaddai. Ça sent bien dans les oreilles, n'est-ce pas? Mais regarde bien, Genèse 49, on voit, c'est l'œuvre de Dieu, de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, Shaddai, qui te bénira des bénédictions des cieux d'en haut. Alléluia, le Très-Haut. El Elyon est aussi El Shaddai. Alléluia, celui qui est en haut, il envoie ses bénédictions d'en haut. Wouh! Et nous sommes assis avec lui en haut aussi, en Jésus-Christ. Bon, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Intéressant ici, parce qu'il y a plusieurs érudites qui ont plusieurs opinions sur la signification de El Shaddai, qui veut dire, tout le monde est d'accord, ça veut dire le Tout-Puissant. Mais l'origine de ce mot, il y a un couple de théories là-dessus, les érudites ont. Et moi, je me suis dit, je ne serais pas étonné si les deux ont raison. Parce que dans un sens, le mot Shaddai, regarde bien, le mot Shaddad, ok? Shaddai, ça vient du mot Shaddad. Cela veut dire de dépouiller et de détruire violemment. Mais on détruit quoi violemment? On ne détruit pas l'innocent. On ne détruit pas ce qui est bien. On ne détruit pas ceux qui n'ont fait rien de mal. Mais ce qu'on va détruire et ce que le Tout-Puissant détruit, c'est le suivant, on le voit dans la parole de Dieu, en Jean 3:8, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voyez-vous ça, c'est positif. Donc on ne devrait pas avoir cette image de Dieu que oui, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais ouais, il est tout cela, mais il est à la fois redoutable et tout-puissant. Et il a la capacité d'utiliser la force. Mais il utilise la force pour des bonnes raisons. Pour protéger les innocents, n'est-ce pas? Pour détruire les puissances de l'ennemi. Quelles sont les œuvres du diable? Les œuvres du diable sont évidentes. Tout le péché, toutes les souffrances, toutes les maladies, toutes les, la pauvreté, toutes les choses qu'on voit Jésus en action, qu'est-ce qu'il fait avec les pauvres qui n'ont rien à manger? Il détruit l'œuvre de la pauvreté, il leur donne de quoi manger, n'est-ce pas? Ceux qui sont accablés et qui sont souffrants avec la maladie, qu'est-ce que Jésus dit? Il détruit violemment, on pourrait dire, les œuvres de Satan et il libère les captifs. Dieu est redoutable. Dieu est puissant. Il est El Shaddai. Comment on dit El Shaddai? Donc, c'est ça. Il est tout puissant. Il détruit les œuvres de Satan. En fait, on voit cela dans ces versets, Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Laisse-moi vous dire que quand Jésus a détruit Satan et les émissaires de Satan, il n'était pas trop gentil avec eux. Il a écrasé la tête du serpent. Et il n'était pas trop doux et tendre non plus. Ça peut piquer un peu. Non, il était avec violence, mais c'était dans la sainteté, Dieu est bon. Et dans sa bonté, il a détruit les œuvres de Satan. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ouh! Donc, on voit cela, que Shaddad veut dire cela, mais en même temps, c'est intéressant. Regardons le verset en Genèse 49, mais c'est juste dans vos notes, c'est pas sur l'écran maintenant, mais c'est marqué qu'il te bénirait avec des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux et en bas, des bénédictions des mamelles, et ça, c'est le mot Shad, du sein maternel. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce que il y a des gens qui croient aussi que le mot El Shaddai, ça parle pas juste du fait que Dieu Tout-Puissant est capable de détruire les œuvres du diable, mais à la fois, il est capable, avec sa puissance, de pourvoir à nos besoins. Comme une mère va allaiter et donner avec abondance, hein, la nourriture à ses enfants, Dieu Tout-Puissant est à la fois capable de détruire avec violence l'ennemi et avec tendresse et abondance pour voir nos besoins. Sa puissance est à la fois là pour juger le mal et pour vaincre le mal et pour répandre sur nous une bénédiction d'abondance. N'est-ce pas merveilleux? El Shaddai. Et on voit que Jésus est El Shaddai aussi.
Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Regarde, il a dit lui-même, Apocalypse 1:8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Savez-vous? Les Hébreux savaient exactement ce qui se passe là. Là, cet homme, mais maintenant c'est après la résurrection, là, il est en train de dire, « Je suis! » Et ça, c'est une autre histoire, c'est un autre message, peut-être la semaine prochaine. Quand il a dit, « Je suis! » Juste là, c'est quelque chose de vraiment important. « Je suis le grand je suis, mais je suis le Tout-Puissant, je suis El Shaddai! » Alléluia! Jésus est El Shaddai. N'est-ce pas merveilleux? C'est lui qui l'a dit, hein? Je n'invente pas les choses ce matin. Puis le dernier nom que nous allons voir ce matin, c'est le nom Adonai. Ça sonne bien aussi, n'est-ce pas? L'hébreu, c'est une belle langue. Adonai. Adonai veut dire quoi? Adonai veut dire le Seigneur de tout. Le Seigneur de tout. Souvent, on dit Seigneur, Seigneur. On prie Seigneur. Mais est-ce qu'on pense à qu'est-ce qu'on dit? Quand on dit Seigneur, ça veut, il y a une signification. Un Seigneur, c'est un maître. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui est propriétaire d'une chose, n'est-ce pas? Un maître, c'est lui qui possède les choses. C'est lui qui est en charge des choses. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'on fait avec les choses. Le Seigneur, c'est celui qui conduit, n'est-ce pas? C'est lui qui est en charge. Donc, quand on reconnaît que Dieu, oui, il est Elohim, le Créateur. Oui, il est Elion. Il est le Très-Haut. Oui, il est El Olam, le Dieu éternel. Il est aussi El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est pas juste ça. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'il soit Adonai pour vous et pour moi. Il faut qu'il soit votre Seigneur, mon Seigneur. On sait qu'il est déjà Seigneur de tout, mais est-ce qu'il est le Seigneur de votre cœur? Parce que c'est ça qui est important. Ceux qui connaissent son nom vont être délivrés. Ceux qui connaissent son nom vont être protégés. Amen. Ceux qui connaissent son nom vont vivre une vie supérieure. Alléluia. Donc, Adonai, le Seigneur de tout. Car tu es bon, Seigneur. Ça, c'est le mot Adonai. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci que tu es bon, que tu es plein de compassion, plein d'amour, et Seigneur, que tu pardonnes. Moi, je suis content d'être pardonné ce matin. Parce que moi, j'ai fait des choses dont j'avais besoin d'être pardonné. Vous? Il n'y a personne sur la planète qui n'a pas besoin d'être pardonné. Car la Bible déclare là-dessus, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu est bon, plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et riche en fidélité. J'aime ça. Donc, quand on parle d'Adonai, le Seigneur de tout, on voit Jésus en Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. El Elyon, n'est-ce pas? Le nom de Jésus maintenant, le Très-Haut, El Elyon est devenu aussi Jésus-Christ. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est quoi? Seigneur. Si on le dirait en hébreu, que Jésus-Christ est Adonai. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est en charge. C'est lui qui doit renaître ma vie. Amen. Ça nous amène à la fin du message ce matin. J'aime toujours parler un peu de OMC. Savez-vous c'est quoi OMC? Oui, mais comment? Qu'est-ce qu'on fait? On doit connaître le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Oui, mais toutes ces choses, hein? Elohim, El Elyon, El Olam, El Shaddai, Adonai, toutes ces choses se retrouvent dans le nom de Jésus. Toutes ces caractéristiques de Dieu. Le Dieu, le seul vrai Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut mettre cela en pratique? Qu'est-ce qu'on peut faire en sortant de cette salle aujourd'hui qui va faire une différence dans ma vie, dans votre vie? Parce que laisse-moi vous dire, remplis la tête avec toutes les bonnes réponses.
Remplissez-les blancs sur votre feuille comme il faut. Ça, c'est bien, c'est correct, mais c'est pas ça qui va changer votre vie. Qu'est-ce qui va changer votre vie, c'est de connaître, d'entrer en relation intime et personnelle avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Dieu Très-Haut, avec le Dieu Éternel, avec le Dieu qui est ton Créateur. Donc, juste quelques pensées pour terminer le OMC. Numéro 1, saisissez votre raison d'être par la connaissance de votre Créateur. Saisissez votre raison d'être. Vous êtes ici sur la planète Terre pour une raison. Et si vous ne connaissez pas intimement Elohim, votre Créateur, vous ne serez jamais capable de saisir cette raison d'être. Donc, en quittant aujourd'hui, je vous exhorte à prendre du temps à chercher sa face et le connaître, parce que celui qui t'a créé avec un but. Nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. Peut-être vous vous sentez un peu perdu dans la vie, chrétien ou pas chrétien ce matin. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, ça c'est la première étape. Il faut connaître Jésus et c'est lui qui va vous montrer votre raison d'être. Même si vous êtes chrétien depuis longtemps, par exemple, vous pouvez le connaître plus intimement et découvrir pourquoi vous êtes sur la planète Terre. Numéro 2, mener une vie supérieure. Comment? En vous soumettant au Très-Haut. C'est une chose de reconnaître que oui, Dieu, tu es El Elyon, tu es le Très-Haut. Tes voix sont au-dessus de mes voix, tes pensées sont au-dessus de mes pensées. Mais c'est pourquoi la Bible dit, abandonnez vos pensées et adoptez ses pensées. Mais pour faire cela, ça prend une chose, c'est l'humilité. Lucifer a dit, je vais monter au-dessus du Très-Haut. Mais nous avons besoin de se soumettre sous la... Qu'est-ce que la Bible dit? Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous sous la puissance, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il vous lèvera au temps convenable. Amen. Donc l'humilité, c'est tellement important. Je me soumets à sa parole. Je me soumets à ses pensées parce que c'est lui qui est le Très-Haut. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. La Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Oui, mais Seigneur, je n'ai pas le goût de pardonner. Dès que vous dites, je n'ai pas le goût de faire ce qui est écrit dans ta parole, tu es en train de dire, Seigneur, même si tu es de très haut, je pense que mes idées sont plus hautes que les tiennes. Donc, c'est là où l'humilité dit, Seigneur, si tu as dit de faire cela, je me soumets, je le fais comme tu me demandes. C'est toi qui es le très haut. Troisième chose, pour terminer, faites confiance à celui qui est fidèle pour l'éternité. Faites confiance à lui. Fais-lui confiance avec votre vie, avec votre famille, avec votre argent, avec votre santé. Fais-lui confiance parce qu'il est digne de confiance. Puis numéro 4, portez du fruit en restant branché au Tout-Puissant. Laisse-moi vous dire, Jésus a dit, demeurez, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Celui qui est le Tout-Puissant va pouvoir détruire les œuvres de Satan dans votre vie et répandre sur vous une bénédiction abondante si vous restez branché à lui. Il est le Tout-Puissant. Et numéro 5, acceptez Christ comme étant le Seigneur de votre vie. Vous dites, hey, mais moi, je suis déjà chrétien, j'ai déjà fait cela. Laisse-moi juste vous dire une chose. Il se peut que ce matin, il y a des gens qui ont donné leur cœur à Jésus il y a longtemps. Ils ont confessé avec leur bouche le Seigneur Jésus. Et là, je veux juste que vous sachiez une chose. On a presque terminé, mais je vous demande pour les prochaines 5 minutes, juste de vraiment rester attentif, parce qu'on va donner l'occasion aux gens ici ce matin à prendre une décision qui va changer le destiné dans une minute. C'est bien important. C'est le moment le plus important de toute la réunion. Donc, je ne sais pas si Jean-Charles est proche, s'il pourrait venir même au piano dans une minute. Mais qu'est-ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est possible pour quelqu'un d'avoir prié et avoir accepté Jésus comme sauveur. Je ne veux pas aller à l'enfer, donc Seigneur, je t'accepte comme sauveur. Mais un sauveur, c'est une chose, un Seigneur, c'est une autre chose. Moi, je sais, parce que j'ai vécu ça, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur quand j'avais 9 ans. Mais à 17 ans, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus comme étant mon Seigneur. À ce moment-là, je dis, Seigneur, à partir de maintenant, c'est toi qui me dis quoi faire. Et je dis, oui, chef. Et laisse-moi vous dire, depuis ce temps-là, je vis une vie supérieure. Alléluia! Donc, peut-être il y a des gens ici qui ont besoin d'accepter Jésus comme le Seigneur de leur vie. Mais il y a d'autres personnes que, peut-être, si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez jamais pris une décision de qualité. Vous n'avez même pas demandé à Jésus d'être ton sauveur personnel. Tu crois en lui? Tu crois? Mais laisse-moi vous dire, la Bible dit que le diable et les démons croient en Dieu aussi, mais ils ne sont pas sauvés. Ta croyance en Dieu ne te sauve pas. Il y a des gens qui disent peut-être, « Oh, mais moi, je vais à l'église là, tous les dimanches. » Où dans la Bible est-ce que c'est marqué qu'aller à l'église peut te sauver? C'est pas marqué. « Oh, mais je prie des fois. » Où est-ce que c'est marqué dans la Bible que la prière peut te sauver? Nulle part. Donc, posez-vous la question. Si je quitterais aujourd'hui la salle, en traversant la rue, il y a un camion qui te frappe et tu meurs. Est-ce que vous savez, sans aucune doute, que vous êtes sauvé, que Jésus est votre Seigneur et que vous irez au ciel pour l'éternité? Si tu as le moindre doute, ça se peut que vous n'avez jamais fait le pas que je vais vous demander à faire tantôt. C'est juste tout simplement d'ouvrir ton cœur et de dire, oui Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Maître. La Bible dit ceci, si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et regardez-moi aussi, la Bible dit ceci, Jésus, combien de vous croyez que Jésus dit toujours la vérité? Jésus qui est le Seigneur. La Bible dit qu'un jour, tous les genoux vont être fléchis devant lui et toutes les langues vont confesser qu'il est Adonai, il est Seigneur. Mais le problème, c'est que si on ne le fait pas avant de mourir, ça va être trop tard pour aller au ciel. Il faut faire cela avant. Donc encore, si aujourd'hui, tu meurs, est-ce que tu vas au ciel? Jésus a dit ceci, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. » C'est Jésus qui l'a dit. Mais Jésus a dit, « Si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel aussi. » Là, on parle de quelque chose de sérieux, n'est-ce pas? Donc, je veux vraiment que vous réfléchissiez. Pensez pas à qu'est-ce que les autres personnes peuvent penser. Parce que quand le moment arrive... Et tu es mort? C'est pas les amis, c'est pas les chums, c'est pas les blondes, c'est personne qui va apparaître avec toi devant le Dieu vivant. Ça va être toi, seul, face à face avec ton Créateur, Elohim. Est-ce que tu es prêt à le rencontrer? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour mériter la vie éternelle ou le salut. On peut tout simplement recevoir le salut par la foi en lui. Amen. Trop de gens vont passer de cette vie à l'éternité, ils vont passer d'éternité à l'enfer même. Même s'ils croient en Dieu, même s'ils sont des bonnes personnes. Où dans la Bible est-ce que c'est marqué que des bonnes personnes vont aller au ciel? Nulle part. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Laisse-moi vous assurer une chose. Il n'y a rien de plus important. Je ne vais pas vous inviter à devenir membre de cette église. Parce que cette église ne peut pas vous sauver. N'importe quelle église, il n'y a pas une église sur la planète Terre qui peut vous sauver et vous donner la vie éternelle. La vie éternelle, on a lu, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Nous avons une bonne église et on aimerait vous recevoir comme membre si vous voulez. Mais il y a d'autres bonnes églises aussi. Mais ce matin, l'invitation, c'est de devenir membre de la famille de Dieu, qui est grande et glorieuse. D'arriver à la place où si tu meurs, tu vas avoir une confiance, une assurance. Je sais que je suis sauvé, je sais que Jésus est mon Seigneur, et je sais qu'il y a une place réservée pour moi au ciel. Laisse pas la crainte de l'homme aujourd'hui vous empêcher de prendre cette décision. Moi, j'ai pris un engagement à chaque dimanche matin, sans exception. Amen. Amen. Tu veux donner ta vie à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alléluia. Alléluia. Ton nom, c'est?
Daniel,
gloire à Dieu. Daniel, c'est la meilleure décision que tu pourrais prendre. Mais moi, je vais faire quelque chose. Un instant, je vais taper mes mains. Et quand je tape mes mains, si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, sans hésitation, mets ta main dans l'air. OK? Sans, il y a une autre personne, j'ai même pas tapé mes mains. Alléluia. Amen. Ton nom, c'est? Pardon? Lucie. Il y a deux autres. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Ton nom, c'est? Jimmy?
James?
Jimmy, Lucie et Daniel, ils veulent tous confesser devant les hommes que je crois en Jésus, n'est-ce pas? Et peu importe qu'est-ce que les autres pensent, je m'en fiche de qu'est-ce que les autres pensent. Jésus est vivant, il est vrai, il vous aime. Mais là, je vais quand même taper ma main. Mais je n'ai même pas tapé ma main. Là, regarde, il y a quelqu'un d'autre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ça vaut le peine. Il n'y a rien de plus important que qu'est-ce qu'ils font. On parle de l'éternité. On parle d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de se rejoindre à eux? Sur trois, je vais taper ma main. Si tu as besoin de donner ta vie à Jésus, ne manque pas cette occasion. 1, 2, 3. Viens-t'en. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur Jésus. Et ton nom? Michel. Gloire à Dieu. Il y a une autre jeune femme ici. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Laisse-moi juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu qui aurait dû? Dans la joie ce matin. La Bible dit ceci, que si un pécheur se répand, que tous les anges des cieux se réjouissent. Et là, je sais qu'il y a un parti au ciel. Et il y a une autre femme ici. Alléluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes ce matin. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a besoin de venir? Venez tout de suite. Regardez-moi. On va. Il y a un autre 10. Alléluia. Et ton nom, c'est? Pardon? Carole. Alléluia. Jésus est vivant. La Bible est claire. C'est tellement facile de donner sa vie à Jésus. Jésus a fait toute l'œuvre. Il a fait le travail. C'est lui qui a été battu. C'est Jésus qui a versé son sang. 10 personnes ce matin. 11. Jésus a souffert sur la croix pour toi. Je suis convaincu que si tu aurais été la seule personne qui a vécu sur la planète Terre, que Jésus, le Fils de Dieu, il aurait donné sa vie pour toi. Donc, il y a 11 personnes, merveilleux, mais 11 individus. Et chaque vie est précieuse. Chaque cheveu de la tête est compté par le Tout-Puissant. Il connaît tes peines, il connaît tes déceptions dans la vie, il connaît toutes les choses que tu as fait, tous les péchés, il connaît tout. Mais bonne nouvelle ce matin, Jésus dit, je vous aime. Ou plus personnellement, je t'aime. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné ma vie pour toi. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous inviter à faire une prière avec moi.
Mais je veux que même si vous répétez des paroles après moi, que ça vienne de votre cœur. Parce que la Bible est claire que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Donc, laisse-moi juste poser la question. Est-ce que tout le monde ici croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que tout le monde croit qu'il est mort pour vos péchés? Qu'il était enterré et ressuscité? Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, priez cette prière avec moi. Et on peut tous prier ensemble, toute la salle, mais prie à haute voix et avec ferveur ce matin. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi, qu'il était enterré et que Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, je confesse que Jésus est mon maître. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour Jésus. Merci Seigneur, que mes péchés sont pardonnés. Je suis sauvé pour éternité. Je vais marcher avec toi tous les jours de ma vie. Je suis sauvé. Tu es mon Seigneur et mon Maître. Et je n'ai pas honte de te confesser devant les hommes. Je m'affiche de ce que les autres pensent. Je vais te suivre de tout mon cœur pour toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.